طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله على رسول الله. Le cours a commencé. Donc on a parlé la dernière fois sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la meilleure des créatures, non seulement des humains et des djinns, mais la meilleure des créatures. Comme a dit Imam al-Laqani, qui est un grand savant égyptien, on l'a dit, qui a écrit une merveille. Il a écrit une poésie de 144 vers, mais qu'il a rassemblé dans ce qui s'appelle Johara, c'est-à-dire, si vous voulez, la perle, le diamant. Inch'Allah, on est en train de le traduire, hein, ça sera la première fois. On le traduit avec commentaires. Ça sera, Inch'Allah, quelque chose de très important. Surtout pour les francophones, parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup d'ouvrages en français qui concernent la croyance. Si vous allez dans les bibliothèques, les librairies, etc., vous allez trouver beaucoup de livres, bien sûr. Mais malheureusement, des ouvrages, on va dire, de qualité, hein, pour ne pas trop critiquer les autres, de qualité, c'est-à-dire qui nous rapportent vraiment notre croyance comme elle est enseignée dans les universités reconnues telles que le Qarawiyyin, l'Azhar, Zaytouna, les universités qui enseignent l'islam authentique, hein, sunnite. Sinon, sinon les livres de croyance, vous allez trouver, si vous cherchez n'importe quoi, vous allez trouver. Il y en a, en plus vous allez trouver beau, bien imprimé, etc. etc. Mais, qui rapporte la croyance sunnite tel qu'enseigné chez les quatre écoles, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le livre de Hassan Ayoub, il est bien. Il y a un autre livre de... Comment il s'appelle, Ibrahim Yaqoubi. Oui, celui-là. Mais il est petit. Il y a celui-là, Cheikh Ibrahim Yaqoubi, mais c'est trop petit. C'est très, 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 très abrégé. Mais il est bien. La doctrine de l'unité. Qu'est-ce qu'il y a en français? Il n'y en a pas.
Hassan Ayoub, il cite beaucoup Ibn Taymiyyah.
Oui, mais allez. Donc Hassan Ayoub, grosso modo, son livre, il est bien. Grosso modo. Bon, il y a quelques passages, mais bon. L'un des critiques, c'est quelques passages, mais ce n'est pas trop grave. Bon, il a quelques passages, mais bon. Vous savez, en général, ceux qui font un escalon en Arabie Saoudite, il faut qu'ils soient touchés par... c'est comme ça. Hein. Mais en général, en français, malheureusement, je ne veux pas beaucoup de... Non, tu veux dire quelque chose?
Quelle science on peut prendre de Ibn Taymiyyah?
On prend de lui tout ce qui concorde au quatre écoles.
Mais comment nous, parce qu'on entend beaucoup de critiques justement Ibn Taymiyyah ou Cheikh Ibn Baz, tu pourrais beaucoup, et nous on ne connaît pas beaucoup.
Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut apprendre. C'est pour ça qu'on apprend. C'est-à-dire on apprend et on apprend ce qui est cadré dans les quatre écoles. Une fois que tu as appris la croyance là, la théologie, ce qu'on appelle la théologie, j'aime pas ce mot-là, il me fait peur déjà. La traduction, elle est un peu, tu vois, théologie, ça ramène à géologie, ça a une connotation un peu catholique, chrétienne, tout ça. Mais bon, c'est la croyance, c'est théorie, c'est la foi. Donc, quand on a appris, tu peux aller voir les autres ouvrages, tu vas distinguer le vrai du faux, tu vas distinguer que là, il y a un dérapage, là, c'est pas bon. Mais par quelqu'un qui connaît pas. On lui donne un livre, voilà, c'est croyance en islam, ou bien, je ne sais pas, tawhid, machin, etc. Il va apprendre ce qu'il va apprendre des choses qui ne sont, qui sont pas de l'ordre de l'islam authentique, on va dire. On va lui apprendre la croyance d'un courant, ou d'une secte, ou bien des philosophies. Mais ce n'est pas la croyance musulmane propre, nette, pure, saine, etc., etc.
Dire, est-ce que, par exemple,
vite fait, Yassar Pi, j'ai un cours, vite.
Est-ce que, par exemple, il y a une science, à part la croyance, on peut prendre, par exemple, Ibn Taymiyyah, il n'a pas été critiqué sur le fiqh, ou sur la science du hadith.
Mais toi, tu es maliki, qu'est-ce que tu vas faire chez Ibn Taymiyyah dans le fiqh hanbali? Lui, il est hanbalite. Ah. mais c'est pas, ça veut pas dire qu'on ne prend rien de lui. Moi, j'ai fait un mémoire de de DEA sur la, le problème de la fixation des prix sur les, chez, chez les savants musulmans, j'ai beaucoup pris de Benetemir. Mais sur, sur un problème bien déterminé que je connais. C'est-à-dire, il a bien parlé sur les questions économiques, etc., de, sur la, l'intervention de l'État, sur les problèmes de prix, etc. Très intéressant ce qu'il a écrit. Sur la, il a des idées très intéressantes sur... Il faut savoir ce qu'on prend. Il faut maîtriser. Des, c'est-à-dire, si on, si on maîtrise très bien son fiqh, on connaît son, son fiqh, on connaît, bien sûr qu'il a des choses très intéressantes. Bien sûr. Et que ça ne fait pas dire qu'on ne prend rien de lui. Tous les savants musulmans, ils ont des bonnes choses, heureusement. Mais il a fait des dégâts. Des dégâts, mais des dégâts très graves, quoi. Il faut faire très attention. Il n'y a pas que lui. D'accord ? Donc il a plus de 60 avis qui opposent le consensus. Pas le, les avis majoritaires, le consensus. D'accord ? Et la plupart des avis, c'est dans la croyance. Et malheureusement, aujourd'hui, on est, avec tout le respect qu'on doit aux chouyours, aux savants saoudiens, etc., avec leurs pétrodollars, leurs milliards de pétrodollars, ils ont inondé le marché avec de, leurs idées, leurs idéologies, au degré qu'on entend que c'est comme si dans le monde musulman, on a un seul savant, c'est Ibn Taymiyyah. C'est la vérité. Si on considère que Ibn Taymiyyah c'est un savant, et c'est un savant, au moins il est un parmi des millions. Mais tu vas partout, tu n'entends que Ibn Taymiyyah. C'est comme si le monde musulman n'a connu que lui. Mais non, quand même, il faut être sérieux. Comment considérer un savant qui était condamné par tous les juges de catégorie à son époque, le considérer comme le seul savant dans toute l'histoire? C'est injuste vis-à-vis des autres savants de la Ummah. Surtout qu'il a opposé le consensus sur plus de 60... Consensus, hein, ça veut dire consensus, tous les savants sont d'accord. D'accord. Et qu'il a dit des choses quand même qui sont très graves. Mais attention, qui ne nous permet pas de le faire sortir de l'islam. On n'a pas le droit de sortir de l'islam quiconque. On est qui pour faire sortir de l'islam? D'accord. Ça, c'est déjà c'est le rôle des savants, hein, de dire tel est, c'est un égaré, tel, etc. On dit ce que les savants ont dit. Bien sûr, la personne elle devient mécréante, elle devient ce que vous voulez, sorte de l'islam, quand elle remet en cause quelque chose qui est, on va dire, comme disent les savants, un kara ma'loum al-min ad-din bi-d-darura, c'est-à-dire elle remet en cause quelque chose de fondamental chez tous les musulmans. Quelqu'un qui vous dit, ben, la prière, ce n'est pas une obligation. Ou bien vous dites, zakat, non, de toute façon, ce n'est pas une obligation. C'est quelque chose de, qui est connu. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, donc Hassan Ash'ari, à la fin de leur vie, ils ont dit, nous, on ne rend jamais mécréant quelqu'un qui se dirige vers la Qibla. Ils disent ce qu'ils veulent. Ça, c'est l'un de ses avis. Donc, si vous voulez, moi, je préfère parler de ce qu'on lui reproche de temps en temps dans mes cours. Pourquoi ? Parce qu'on est malheureusement, on subit une influence pas possible, quand même. Vous allez dans les sites internet, c'est par centaines, c'est pas par milliers. En arabe, c'est terrible ce qu'il y a comme site, ce qu'il y a dans les salons, ce qu'il y a comme publication, ce qu'il y a comme chaîne de télé. Mais c'est des milliards qui sont dépensés là-dessus. Vous avez des grands savants, on ne voit pas leurs livres. Allez-y chercher. Vous savez, quand vous lisez les anciens ouvrages qui datent depuis des siècles, quand on vous dit Cheikh al-Islam, il parle pas de Moutaymi, hein. Il parle d'Abu Zakaria al-Ansari, c'est lui qui a ce titre-là. Or, aujourd'hui, il va demander à tous les frères dans les mosquées, vous connaissez Abu Zakaria al-Ansari? C'est qui celui-là? On n'a jamais entendu parler. C'est lui, Cheikh al-Islam. Bien que Ibn Taymiyyah, on lui a donné ce nom-là, quelques savants lui ont donné ce nom-là, et aujourd'hui, quand on dit Cheikh al-Islam, c'est Ibn Taymiyyah. Or, historiquement, Cheikh al-Islam, c'est Abu Zakaria al-Ansari, qui est une sommité inimaginable de science. Inimaginable. Mais va chercher ce qui est ce personnage, Abu Zakaria al-Ansari. Même pas sa biographie, on ne l'a pas. Ses ouvrages n'en parlent même pas. Je parle en arabe. Ses ouvrages en arabe n'existent pas. Alors que dire en français? Je sais ce que je dis. On travaille en collaboration avec des chouyours d'Al-Azhar. On essaye de... On profite du net, parce qu'on n'a pas d'argent pour publier. Mais on essaye de mettre en PDF sur Internet tous les livres anciens en scan et on essaye de faire profiter les gens parce qu'il faut beaucoup d'argent pour... On ne peut pas faire face à cette... On est devant une... Mais alhamdoulilah, quand tu as... quand tu rapportes ce que tu as par chaîne de transmission authentique, c'est la vérité, c'est le nom, l'argent ne peut pas faire face d'argent. Inna lil batili la jawla, wa inna lil haqqi la sawla. C'est-à-dire l'argent, il peut tenir, il peut miroiter, c'est un mirage. Mais la vérité finit par jaillir, par prendre le dessus. Ça, c'est clair et net. Historiquement, les sunnas, ils sont tout le temps comme ça. À un moment donné, il y avait un grand savant qui s'appelle l'imam al-Qushayri. Vous avez sûrement entendu parler. C'est un grand soufi. Il a un livre qui s'appelle, je ne sais pas, s'il est traduit ou non, La Risala. C'est le meilleur ouvrage dans le soufisme. Je ne sais pas s'il est traduit ou non. C'est une merveille, ce livre-là. La Risala de l'imam al-Qushayri. S'il n'est pas traduit, Inch'Allah, on fera un projet. C'est un livre exceptionnel. L'imam al-Qushayri, à son époque, il y avait un courant qui ressemble à ce courant-là, au Wahhabite. C'est des anthropomorphistes, mais ils étaient majoritaires. Ils ont commencé à faire la fitna à Nisabour. Comment on dit en français à Nisabour. Je ne sais pas comment on dit en français Nisabour. Du côté de l'Asie centrale. Alors lui, son idée c'était quoi? Ces gens-là, ils viennent dans la mosquée, hein. Cheikh, il est dans, ils lui disent, alors, Ar-Rahman al-Ashistawa, il est assis ou non? Direct, hein, tu dis pas, ils l'ont frappé, hein, c'est pire qu'aujourd'hui. Tout le monde se met debout, ils disent, qa'id, qa'id, ils disent, assis. C'est des vrais fous. Hein, il a vu, c'était comme ça, il a dit, il a envoyé des lettres à tous les savants sunnites. Il a dit, écoutez, on est devant des gens ignorants. La seule solution, c'est la science. Il faut apprendre aux gens. Il apprenait aux gens chez lui, dans les maisons. Et là, préparer toute une génération d'élèves. Ils ont pris le relais, il a, même pas 10-15 ans, il a dominé toute la région de l'Asie centrale. Donc, parce que c'est ce genre de science. Nos frères aujourd'hui, ils viennent, tu dis. C'est-à-dire, malheureusement, on utilise l'islam d'une façon, on va dire, on profite de l'ignorance des gens pour les induire en erreur. Par exemple, je vais te donner un exemple. Nous, on étudie le fiqh malik. Imam Malik, il a étudié, je vous l'ai dit, chez 900 cheikhs. 900 cheikhs. Tu vois, si tu as 2-3 cheikhs, tu dis, oh, je suis le plus grand savant du monde. Attention, hein. Mais lui, il a 900. Imam Abu Hanifa, il avait 4000 cheikhs. 6 parmi les sahaba. Vous imaginez, c'est quoi 900 cheikhs? Attention, les 900 cheikhs de l'imam Malik, vous avez 600, ils ont appris chez ceux qui ont appris chez les sahaba. Et 300, ils ont appris directement chez les sahaba. Tu imagines, 300 cheikhs, ils ont appris chez les sahaba, les compagnons du prophète. C'est-à-dire c'est une science quand même très forte. Alors, quand l'imam Malik nous rapporte cette science-là, imaginez qu'on a des hadiths que nous, au 21e siècle, pas de problème, on se réveille à 10h, mille feuilles, café au lait, tac, 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 il va à Coran, il achète un livre, tiens, il a trouvé un hadith. Lui, il est à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la lumière, elle est là, il parle avec les gens qui ont parlé avec les compagnons. D'accord, c'est-à-dire, avant que le hadith nous arrive à nous, Hassan. Il a été vu par des milliers, filtré, vu, revu. Tu me comprends? Alors, où je voudrais arriver? 6 milliers de savants, je pense que l'école malikite. Avant qu'ils nous donnent le ahkam qu'on était en train de parler tout à l'heure, vous remarquez que, je vous dis, voilà, c'est que Annie de la prière, tac, 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 je vous donne pas les arguments, parce qu'on n'a pas le temps, si on va commencer à donner les arguments, on va terminer l'année prochaine. Donc, c'est-à-dire, ces gens-là ne rigolent pas. C'est-à-dire, c'est le livre dont je suis en train d'enseigner, c'est un grand savant d'Al-Azhar. Ce n'est pas des rigolos, c'est des gens, ils sont mités. Donc, le fiqh maliké, c'est-à-dire, on peut, c'est des spécialistes, etc., on peut étudier. Moi, j'ai un livre de 16 tomes, chaque question a ses arguments, et des fois, si je vous donne un argument, il faut que vous compreniez, parce que ça me fait rire, des fois, des gens, ils viennent... Vous répondez dans le site là que je gère, on me dit vous répondez, vous ne donnez pas d'argument. Si je te donne l'argument, il faut que je passe 2 heures à t'expliquer l'argument. Ah bon, si l'argument, je dis que c'est quoi l'argument? C'est Amal al-Madina, l'acte des gens de Médine. Qu'est-ce qu'il va comprendre, l'acte des gens de Médine? Ah ben, il faut lui donner un cours, qu'est-ce que ça veut dire l'acte des gens de Médine? On va passer 2 heures. Donc imagine, chacun avec qui, parce que les gens ils croient que l'argument, un hadith, un verset, c'est pas ça l'argument. Tu as 16 arguments chez les malikites. Il y a 16 argumentations. Et chaque argument nécessite toute une science qui s'appelle la science de Osul Fiqh. Alors eux, ils font qu'est-ce qu'ils font? Ils te ramènent un hadith et disent, toi, tu suis l'imam Malik ou tu suis le prophète? Regarde, ce qu'on appelle en arabe, Mughalata. Mourada, c'est-à-dire... Traduit en erreur, mais c'est plus que... C'est-à-dire, il traduit en erreur. Mourada, c'est-à-dire, il te fait jouer un truc. Quelqu'un, ça qu'il n'est pas, ils sont... Subhanallah, ils ont peur. Subhanallah, ensuite, le prophète, bien sûr. D'accord. Mais là, en vérité, quand il te dit ça, indirectement, il te dit, Imam Malik, ne suis pas le prophète. C'est ça. Tu dis, toi, tu suis le prophète, regarde le prophète ce qu'il dit. Il te ramène le hadith hein, dans le Bukhari. Hein, voilà. Il est dans le Bukhari. Voilà, le prophète, il dit ceci et cela. Ça, oulala. Mais quand tu regardes bien ce qu'il est en train de faire, celui qui fait ça, il est en train de jouer le rôle de l'imam Malik. Parce que l'imam Malik, c'est lui qui regarde le hadith, c'est lui qui tire le commandement du hadith, il te dit qu'est-ce qu'on a compris. Parce que le hadith, c'est un océan. Lui, il a trouvé des hadiths. Mais comme ce hadith-là, tu as des milliers. Et ensuite, il y a toute une science là-dessus. Mais ils étudient, les gens, ils ne savent pas qu'il y a toute une science là-dessus. Science du hadith, tu passes toute une vie là-dessus. Il faut voir ce hadith-là qu'il te donne. Est-il abrogé? Il n'est pas abrogé. Spécifique, pas spécifique. Général, pas général. Et déjà, qu'est-ce qu'on a compris? Peut-être tu as compris le sens contraire. Peut-être qu'il y a un argument, parce que même les hadiths, tu as un autre hadith qui est authentique aussi, mais qui est plus fort que celui-là, et qui n'existe pas dans ce livre, il est dans un autre livre. Il y a donc toute une science là-dessus. Donc on induit les gens en erreur en disant, voilà, la façon comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. On publie le livre, vous savez, Kayfiyat Salat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un livre de Cheikh Al-Albani, qui est, naam, Sifat Salat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, comment le prophète priait. Faire un livre, plein de hadiths, etc., on le distribue aux gens. Allez hop, ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est pas la peine, comme dit l'autre, c'est pas la peine, il n'y a rien à voir circuler. C'est pas la peine d'aller voir chez les Hanafit, Malik, tout ça, allez hop, vous avez la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, allez, prenez-la. Et, c'est-à-dire, il joue le rôle d'Abu Hanifa, du chef et de l'imam Malik. C'est comme si les autres, ils ne nous ont pas rapporté la façon comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prié. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Imam Malik, qu'est-ce qui passait son temps, subhanallah, Nushuyur nous rapportait qu'il y avait des gens, des ulama, ils faisaient une corde, ils l'attachaient, une corde pour qu'il ne dort pas, pour qu'il dort pas la nuit. Dès qu'il dort, la corde, elle le tire pour réveille-toi, la umma t'attend pour lui donner des solutions. D'autres, j'avais un cheikh, il nous racontait, ils mettaient du sel dans leurs yeux pour qu'ils ne dorment pas. Du sel, pour rester éveillé, pour donner à la umma. Les gens, ils dorment, wallah, le ventre, il est comme la femme. Arrêtons, hein, subhanallah. Ce mouvement-là, il nous a fait beaucoup de mal. Malheureusement, il faut le dire la vérité. Il faut dire la vérité, la chose comme elle sent. Malheureusement, on souffre beaucoup. On souffre beaucoup. Je ne parle pas du point de vue politique, c'est le drame. Le monde musulman vient un drame aujourd'hui, depuis la chute de l'Empire ottoman. Et ils ont participé dans la chute de l'Empire ottoman. Ils ont travaillé avec les Britanniques, main dans la main, pour faire chuter l'Empire ottoman. Et les Britanniques, ils ont mis un État fantoche. L'Arabie Saoudite, d'où ils les ont armés, alors on s'arabilise un peu l'histoire. Ils les ont armés, financés, etc. Attention, c'est des Turcs, ben, l'Empire ottoman, bon, là c'est des faux comme tu les empires, mais c'est un empire musulman. Je suis désolé, hein, les Britanniques, ils ne vont pas te faire un cadeau. Hein, ils ont mis des ignorants, vraiment. Que ce soit dans la religion, que ce soit dans la politique, la stratégie, tout ce que tu veux. Ils les ont mis des marionnettes. Donc, dans la science aussi, c'est-à-dire le côté politique, c'est une chose dont je ne parlerai pas, mais le côté science religieuse aussi, malheureusement. À un moment donné, contre Mohammed ibn Abdul Wahhab, le fiqh qu'il enseignait, c'était un fiqh hanbalite. C'était un fiqh qui marche avec les quatre écoles. Mais après trois ou quatre générations, ils ne suivent pas le fiqh hanbalite. Maintenant, ils te disent, nous, le kitab sunnah. Suive le kitab sunnah. Mais est-ce que tu es apte de tirer le commandement du livre et de la sunnah? Tu ne connais même pas l'arabe. Mais voilà les dégâts, comment ils défendent les dégâts. Ils ne connaissent même pas l'arabe. Ils ne ramènent même pas un seul hadith par chaîne de transmission au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il va tirer le commandement. Mais mon frère, il faut que tu sois capable. Si tu as la capacité que l'imam Malik, Abu Hanifa, vas-y, Inch'Allah, nous on aimerait bien avoir un Abu Hanifa contemporain, un imam Malik contemporain. Bien sûr, on a beaucoup de questions à lui poser, on a besoin, hein, on a des... Et on ne les voit jamais dans les questions d'actualité, de la finance islamique, dans la bourse, quand on parle de... dans les sujets de génétique, etc. Là, on ne les voit pas. Ils sont absents. Là, on a besoin de fatwa, c'est-à-dire d'actualité. Ça demande une science. Là, ça demande les sciences du Bakas, des Fermoisel, toute une science qu'ils n'ont jamais entendu parler. Mais dans les choses qui sont classes, les savants, ils ont parlé, c'est fini. C'est le sujet, les clos. C'est des sujets anciens. Eux, ils vont les faire revenir et les discuter. On n'a pas besoin maintenant de quelqu'un qui nous parle Tawassul, attention, c'est shirk. Qu'est-ce que c'est que ça? Tawassul, c'est shirk. Arrêtons. Tawassul. Elle adore le prophète, mais il n'y a pas que c'est quelqu'un qui adore le prophète. On va, y a un puits, la batte du prophète, sallam, elle est tombée dans ce puits-là. Les sahaba, il y a des livres d'ici là qui racontent ça. L'eau de ce puits-là, depuis que la batte du prophète sallam, est tombée, son eau, elle est délicieuse. D'accord. Les gens, ils faisaient tabarok, ils faisaient boire et se doucher avec cette eau, etc. Allez hop, ça c'est du shirk, allez on démolit cette puits. Tu vois, ils ont fait beaucoup de choses, ils ont détruit beaucoup de choses sous le prétexte pour que les gens ne font pas l'association. Non, donc, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, mais il a fait des dégâts. Aujourd'hui, on a une école qui est en dehors des quatre écoles sunnites. Déjà, dans le fait qu'ils ne sont pas tous d'accord, hein, ils sont pas, c'est pas, le fait qu'enseigné par Jabal Jazari, ou Uthaymin, ou Ibn Baz, ou Al-Qambali, ce n'est pas la même chose. Hein. L'autre, il te dit qu'il faut s'asseoir avant de se lever, l'autre, il te dit non, tu ne t'assois pas. Donc, déjà, ils se mettent d'accord entre eux. Dans la croyance, kif-kif, ils ont des divergences, même dans la question de Tawhid. Mais ils se mettent d'accord sur beaucoup de points de rendre les Ash'arites égarés, par exemple. Enfin, ils te disent, quand tu dis les Ash'arites, c'est qui les Ash'arites? C'est les Malikites, c'est les Shafirites, c'est les Hanafites, c'est la majorité des Hanbalites. Ils sont égarés dans les questions de croyance. Alors, si ces millions de savants sont égarés dans la... C'est une Oumma, c'est une civilisation foutue, celle-là. C'est les savants de la Oumma qui représentent 90%, ils sont égarés. Alors, c'est une Oumma, elle est foutue, cette Oumma. Le professeur Assalam, il dit « La tajtami'u Oummati ala dhalala. » Ma communauté ne se met jamais d'accord sur un égarement. D'accord. Rapporté par le Bayhaqi et d'autres. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on traitera de temps en temps de dérapage de Ibn Taymiyyah, rahmahullah. Après avoir parlé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a parlé de son ascension, etc. Rapidement parler du jugement dernier. Le jugement dernier est inéluctable. Il y a des hadiths, il y a des versets. L'yom al-akhir. C'est une chose que chaque croyant musulman doit croire. Cet univers-là, à un moment donné, il y aura un jugement dernier. Il y aura des signes de fin des temps, bien sûr. Il y a des petits signes, il y a des grands signes. Les savants disent que les petits signes sont apparus. D'accord? Les petits signes sont apparus. Les petits signes, le prophète, on en a parlé. Non? Les petits signes, entre autres, un tel idel amateur abbatéa, c'est que l'esclave, ou bien le seigneur, voilà, c'est-à-dire vous avez l'esclave, il va donner naissance à son seigneur. Les savants, ils ont dit que cela signifie que le jour où les interprétez ça, le jour où les enfants n'obéiront plus à leurs parents. D'autres, ils ont dit non. Tellement il y aura un chalota dans les mariages, etc. Il y aura des gens qui ne connaissent pas leurs enfants, et ces enfants-là seront des maîtres et qui vont être, c'est-à-dire des maîtres de leurs parents qu'ils ne connaissent pas. Me forme, c'est-à-dire c'est signe de fin des temps. En taraj hufat al-urat et tatawaluna fil bunyan. Que tu verras des gens qui étaient pieds nus, qui n'avaient même pas de choses pour s'habiller, en train de construire des quartiers. On les voit. Dernier tour à Dubaï, Zimara, attention, elle a dépassé la tour Eiffel, tenez-vous bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a dépassé la tour Eiffel en quoi? Mais dépassé les gens qui habitent à côté de la tour Eiffel dans le développement, dans la médecine, dans l'éducation, c'est ça. C'est-à-dire, le prophète nous dit, ils vont se concurrencer. Et on sait que ça se concurrence là-bas, dans les pays du Golfe. Moi, j'ai fait 800 étages, machin. L'autre, il dit, moi, je suis 820. L'autre, tu vois. Donc, et ces gens-là, tu le revois dans les années 20, c'est des gens qui vivaient dans les tentes. Il y avait des chèvres, machin, ils n'avaient rien. D'accord. Ça, c'est des signes de fin des temps. Arrive. Donc, il y a les petits signes. Et vous avez les grands signes. Le Mahdi, le Montadar. C'est-à-dire, il y aura le Mahdi. Le Mahdi. Naam. Hein?
Bien guidé,
ou bien. Mais ça, il s'appelle Mahdi. Hein. Donc son nom, c'est Mohamed. Son nom, c'est Mohamed. Et le nom de son père, c'est Abdullah. D'accord, il aura le même nom du prophète, mais il aura le même nom de. Il aura un signe sur sa joue droite. Il apparaîtra du côté de Médine, la Mecque et Médine. Donc lui, c'est quelqu'un de juste. Bon, les chiites, ils ont une conception sur le Mahdi, hein, une conception un peu bizarre, hein, très bizarre à Koulihal. Ils ont un cheval blanc, ils vont de, chaque année devant une grotte, mais ils attendent que le Mahdi sorte, etc. Machin, etc. Bon. Chez nous, les sunnites, non. Comme dit l'imam al-Maududi, il dit, ne croyez pas que le Mahdi va être quelqu'un... c'est-à-dire, il sera quelqu'un qui, comme si tu as pris quelqu'un de l'époque abbasite, tu le mets au XXe siècle. Non, il a dit, c'est... Et c'est vrai, le hadith le dit. Le Mahdi, ce sera quelqu'un d'ordinaire, simple. C'est-à-dire quelqu'un qui sera, il vit comme les gens. Il ne sait pas que ce sera lui le Mahdi. D'accord? Mais en une nuit, tout change, il le saura. Il guidera les gens vont le suivre. Il aura la sagesse, la science, le savoir, etc. Me font. Donc, en quelque sorte, il préparera le terrain. Il sera avant Sidna Issa. Après lui, il va. Sidna Issa, vous savez que Sidna Issa n'est pas mort, hein, contrairement. Hier, j'ai reçu un couple, un homme et une femme, ils sont venus. Lui, il est italien, donc je les ai invités à venir assister au cours. Elle est musulmane, je ne sais pas si c'est algérienne, marocaine, etc. Là, elle, mais musulmane. Donc ils sont venus, le monsieur il vient, il me dit, pour revenir à Sinaï, ça. Voilà, voilà, je voudrais savoir, on veut se marier. Quelle est la position de l'islam? Je dis, écoutez, la position de l'islam, c'est clair, une femme musulmane n'a pas le droit de se marier avec un homme musulman. Il me dit, je suis désolé, mais moi je suis croyant. Il dit, je suis croyant, et où est la différence? Elle est croyante, on n'est pas des religions monothéistes. Je lui dis, je respecte votre croyance. Il me dit, nous n'adorons pas le même Dieu. Je dis, je suis désolé, on n'adore pas le même Dieu. Je dis, je préfère être honnête avec toi, on n'adore pas le même Dieu. Toi, tu adores ou le Père, ou le Fils, ou le Saint-Esprit, ou les trois hommes ensemble, je ne sais pas ce que tu adores, hein, il faut que déjà tu m'expliques ce que tu adores, ou l'un, ou un, ou deux, ou trois, ou les trois en même temps, je ne sais pas. Mais moi, mon Dieu, voilà comment c'est le cas. Il est qualifié. Ses attributs, le Tout-Puissant, rien ne lui ressemble. Ne mange pas, ne boit pas, ne s'assoit pas, etc., etc., etc. Lui, moi, je lui pose la question. Dis-moi, ton Dieu, c'est qui? Il était incapable. Ce n'est pas pour le mettre dans la gêne. C'était un jeune italien, etc. Je dis, pour t'expliquer qu'on a... je respecte, j'ai des amis prêtres, etc., de l'archevêché, tout, on fait des débats, on mange ensemble, on boit du café, etc. C'est des frères dans l'humanité, il n'y a pas de problème. Mais, notre carte vérité, on les dit. Honnêtement, il n'arrive pas à comprendre. Il m'a dit, alors, ça fait 8 ans qu'on vit ensemble. Écoutez, moi, je vous dis, l'islam, comment il est, tu fais ce que tu veux dans ta vie, tu fais ce que tu veux, mais... moi, je ne te dis pas, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je te dis la position de l'islam, comment elle est. Ensuite, c'est à toi de faire ce que tu veux. La dame, la jeune fille, là, elle m'a dit, je ne comprends pas pourquoi on m'interdit de me marier avec quelqu'un que j'aime. Ah, je dis, écoutez, personne ne vous interdit. Hein, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre vie. Mais l'islam, il a des règles, il a des lois. Vous ne pouvez pas vous imposer vos règles. Si chacun va imposer ses règles, ça sera de l'anarchie. L'islam, il a un code de... C'est un code. Il faut l'appliquer. Si vous vous dites que vous êtes musulman et vous voulez appliquer l'islam, il est comme ça. On ne peut pas avoir une religion selon chacun. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous explique. Moi, je ne suis pas là pour vous dire il faut que vous vous convertissiez. Il m'a dit les cas, comme nous, qu'est-ce qu'ils font? Je dis chacun, j'avais trois cas dans ma classe l'année dernière. Trois personnages qui sont venus me dire qu'on veut se marier avec trois jeunes hommes qui veulent se marier avec des musulmanes. Et que, je lui dis, le problème ici en Occident, c'est que vous ne connaissez pas l'islam. C'est qu'on nous a diabolisés, on nous a arrêtés comme des barbares. Si je vous pose ma question maintenant, qu'est-ce que vous connaissez de l'islam? Vous allez me répondre, la burqa, les talibans, les explosions, Kalachnikov, les barbus, intégristes, terroristes, salam alaikum. C'est ça l'islam. C'est ça ce qu'on montre à la télévision. Ça, vous avez des journalistes, ils viennent à la mosquée de Paris, et on a des profs francophones, on les interviewe pas. Hein. Ils vont chercher le plus ignorant, qui parle un français catastrophique, mal habillé, mal coiffé, et quand il parle, il fait des dégâts. Et on rapproche la caméra bien sur son visage, comme ça, ce sera le scoop de la semaine. Ça, Houla, ça, je l'ai vu. On a eu une réception de remise de diplôme. On avait des journalistes de France Info qui sont venus, ils cherchaient des imams arabophones à interviewer. Je dis, mais monsieur, vous êtes en France, pourquoi vous cherchez un imam arabophone? Je peux vous répondre, on a Ayouaz qui est professeur très très bien, il parle français. Comme un Victor Hugo, ça. Non, ils cherchent un arabophone. Et on a dit à tous les imams, ne répondez pas. Ils ont trouvé deux frères, ils n'étaient pas au courant. L'autre lui pose une question, oui. Non, oui, il ne répond pas. Ils l'ont passé sur France Info en boucle. Regardez les imams qui sont formés en France. C'est ça. Je lui dis à ce jeune homme, j'ai dit, si vous voulez connaître l'islam, allez-y aux sources. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous raconte dans les médias. Comme disent l'autre, les médias, c'est des médiums. Donc, faut faire très attention. Je lui dis, le cas que je connais dans ma classe, c'est des gens qui étaient honnêtes. Ils ont dit, non, on ne connaît rien de ça. On ne peut pas se convertir dans une religion, on ne connaît pas. Donc on vient connaître c'est quoi cette religion. Je dis, vous êtes les bienvenus. Il n'y a aucun problème. J'avais un représentant du Vatican qui a passé toute l'année avec nous. Un type, machallah, très bien, plein de sagesse, poli, etc., etc. Je débattais avec lui en classe. C'était représentant du Vatican. C'est-à-dire, c'était responsable des relations avec les musulmans. Donc il voulait connaître la croyance musulmane. C'est bien. Il était là, je l'attaquais de temps en temps, il est très gentil, parce qu'il n'est jamais, il a dit quelque chose, mais je le matraque. Je le rate pas. Non, mais c'est une chance d'avoir quelqu'un vrai catholique, qui connaît. Et il m'a appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas dans le catholicisme. Mais je lui dis, vous avez un problème. Si vous nous reprochez des problèmes, vos questions sont les bienvenues, vous refusez les débats. Vous refusez les débats. La preuve, Ahmed Didat, ils l'ont refoulé. Charles de Gaulle, il avait un visa. Il est venu pas parler de politique, ni de rien, mais débattre avec des prêtres. Il circule tout le monde entier, il a fait des débats partout, mais ici en France, il le refoule à Charles de Gaulle. Pourquoi? Il ne faut pas avoir peur. Si vous avez la vérité et vous détenez le texte vrai, original, il ne faut pas avoir peur. Nous, on ne prétend pas répondre à toutes les questions. On a des savants, etc. Si on ne connaît pas, on dit on ne connaît pas. Mais ne refusez pas les débats. L'islam n'a jamais peur des questions. Ça, c'est très important. Le musulman doit poser toutes les questions. Nos savants, ils ont posé des questions inimaginables, entre eux. Inimaginables. Nos philosophes, etc., Ibn Rushd, Abou Sina, etc., qu'on n'imagine même pas. Ils les ont posés. Et on doit trouver des signes de religion, de science. Il faut chercher la vérité. Si on croit qu'on a la vérité, il ne faut pas dire... quand je leur dis... nos amis prêtres, hein, j'arrive pas à comprendre c'est quoi votre Dieu. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, ou le Saint-Esprit, ou les trois en même temps. Vous savez c'est quoi la réponse? Vous n'avez pas l'amour. Quand vous aurez l'amour, la foi, vous comprendrez. J'ai pas l'amour. Je suis quelqu'un d'athée. J'ai le droit de comprendre votre logique. Ça, j'ai le droit de comprendre votre logique. Il faut que je sois chrétien pour comprendre votre logique. Non. Je veux pas comprendre. Expliquez-moi. Mais il n'y a pas d'explication. C'est comme ça. Non, il n'y a pas de c'est comme ça. En islam, il n'y a pas de c'est comme ça. Il faut argumenter et rationnellement. En islam, vous remarquez dans la théologie, dans l'aqida qu'on a étudié, on donne le verset et on argumente rationnellement. Parce que tu ne t'adresses pas qu'aux musulmans. Même un musulman, il a besoin d'argumentation rationnelle. Pour s'apaiser, se rassurer, comme m'a dit Sayyidina Ibrahim Khalil. Non, C'est pas que je crois pas, mais pour que mon cœur soit apaisé. L'argumentation rationnelle. Allah, pourquoi il nous a donné la raison? Sinon, en fait, ceci, ne... non, elle est là. Donc, j'ai dit à ce frère, je dis, les trois qui étaient dans ma classe, en fin d'année, sont les trois convertis. Les trois sont convertis. Il y avait 8 conversions l'année dernière dans la classe. Alhamdulillah. Wallah, une fille de 16 ans. Regardez l'islam, qu'est-ce qui se passe dans ce monde occidental? Il y a quelque chose qui cloche. Elle est en perdition. Le monde occidental, vous savez que tous les jours, on a 7-8 ici, la mosquée pas qui vient se convertir. Hein. Tous les jours. Et le nombre, il est très important de conversion. Il y a un vide spirituel. Il y a un vide. La chrétienté ne répond pas à la soif spirituelle. Le judaïsme non plus, le bouddhisme non plus. Ça ne répond pas à cette soif. Pourquoi ça ne répond pas? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé en chacun de nous, dans son intérieur, toute l'humanité, il a créé quelque chose de très important. L'unicité, elle est tout au fond, il faut aller la chercher. L'homme ne se reconnaît pas dans le mensonge. Il ne se reconnaît que dans la vérité. Ils ont fait des expériences, des grands chouyours, ils ont fait des expériences. Ils ont ramené des gens, des Arabes, hein, des Occidentaux, des Américains, des Allemands, des Anglais aussi. On leur récite le Coran Karim avec psalmodie, et on leur récite des paroles comme ça, en psalmodie aussi, petit-juit. Et on leur pose la question, qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui... Tous ils ont dit, c'est ça. Et ce n'est pas des Arabes. Pourquoi c'est ça qui les touche? Et ceux-là aussi, les psalmodies, pourquoi? Parce qu'ils portent à l'intérieur sur la parole d'Allah Azza wa Jalla, une âme dans son intérieur. C'est pour cela, quand quelqu'un, quand vous parlez d'islam, soyez juste sincère. Ça ne nécessite pas une science inimaginable. Il faut que nos paroles concordent avec nos actes. Cela suffit. Si, c'est-à-dire que tu portes la vérité, al-haq, c'est une lumière que tu es en train de parler, t'inquiète pas. C'est pas, attention, tu vas raconter les théories d'Einstein, t'inquiète pas. Avec ta simplicité, comme tu es, mais dis ce que tu crois et fais-le avec sincérité. Ça, tu atteindras, tu gagneras le cœur des gens. Par contre, si on peut être un grand rhétorique, tout ce qu'on veut, etc., et qu'on fait le contraire de ce qu'on dit, ça ne touchera pas le cœur des gens. Impossible. Même si tu ramènes tous les arguments, ça ne passe pas. Ma femme, Inch'Allah. Allez, le temps, on est un peu débordé, mais c'est des choses importantes. Donc, on a dit les signes de fin des temps. Donc, les grands signes, on a cité... les grands signes, on dit le Mahdi, Khuruj al-Dabba, donc c'est une créature qui va sortir. On rapporte que ça sera du côté du Yémen, etc. On rapporte que cette créature, elle parlera, etc. Vous avez parmi les grands signes, un grand feu sortira, soufflera. Vous avez aussi un des grands signes que bien sûr que le soleil se lèvera, hein, se lavera du côté de l'Occident, contrairement à ce qui est habituel. L'habitude, le soleil se lève du côté de l'Orient. D'accord? Donc, plein de grands signes. Vous avez des livres, pas mal de livres qui sont intéressants là-dessus. Non. Toute créature... Allah Azza wa Jal fera anéantir toute chose sauf les prophètes, les martyrs, le paradis et l'enfer, le trône, la table bien gardée, la plume, qalam. Le kursi, on le traduit par piédestal, mais bon, ça me fait peur ce mot-là, mais bon. C'est le kursi, hein, je préfère garder le kursi. Qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà, comment on dit? Le coccyx, qui est le dernier os de la colonne vertébrale de chaque être humain. Et les âmes aussi, les âmes, hein, ne s'anéantiront pas. Donc, il y a quelques créatures. L'imanil mulk liyom, à qui le royaume, la royauté aujourd'hui, Allah Azza wa Jal dira le jugement dernier. Donc personne, rien, Allah Azzawajal transformera ce jour-là, transformera les lois de la nature qu'il a créée pendant cette vie d'ici-bas. À un moment donné, toutes ces lois changeront. Il y aura une terre qui n'est pas cette terre. Il y aura une terre qui sera... il y aura ni arbre, ni rien. Les gens, ils vont se rassembler. Mettre ça, elle est...
Aplani.
Aplani, ouais, yani, elle est, je sais pas comment dire, flat, etc. Hein? Melsa, ça n'est pas, Melsa, comme ça, elle est...
Lisse,
voilà. Non. Toute l'humanité se rassemblera, et les animaux se rassembleront dans cet endroit-là. Toute l'humanité. Et les gens se rassembleront, chacun avec son groupe. Chacun avec son groupe. Chacun avec son courant. Chacun avec son imam, son représentant. T'as suivi qui dans cette vie d'ici-bas? Tu seras avec lui. Al-mar'u ma'a man ahab. Tu aimes tel, tu seras avec lui. Tu l'aimes, tu l'as adoré, tu l'as suivi, tu seras avec lui. Le mot dernier, bah, tu assumes ce que tu as choisi dans cette vie d'ici-bas. C'est à toi de choisir qui tu aimes dans cette vie d'ici-bas et qui tu as choisi comme modèle de suivre. D'accord? Et pourquoi tu l'as choisi? Pour ses beaux yeux, pour sa statue, statuaire, comme on dit, pour son charisme, pour, je sais pas moi, ou bien pour autre chose. Pour sa foi, pour sa croyance, pour etc. Chacun est libre de choisir. Ici, c'est le libre arbitre, hein, on parlera de cela. Tu es libre de choisir ce que tu veux, mais tu vas assumer ce que tu as choisi. Un jour, tu rendras des comptes. On doit rendre des comptes de ce qu'on a choisi. Donc, chacun reviendra avec... d'accord, avec celui qui l'a suivi. Donc, le jugement dernier, donc c'est une journée terrible. Terrible. Allah Azza wa Jal fera ressusciter toute l'humanité. Tout le monde. Tout le monde. Alors, les kofars ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on peut se ressusciter? Regarde ces os-là. Ils ont pris des os. Ils ont dit, regarde. Ils ont pris des os très 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 anciens. Ils les ont fait comme ça, ça devient de la poussière. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. Celui qui va la ressusciter, c'est celui qui lui a donné la vie avant qu'elle soit. Regarde, le Coran utilise la raison pour le prouver. Ils ont dit, comment ces os-là vont pouvoir revenir? Allah leur a dit, oui, celui qui va le faire revenir, celui qui les a fait exister déjà de rien du tout. Ça, exactement. Il leur prouve par la logique. Regarde, la raison. Parlez peut-être tout à l'heure de la raison. Allah Azza wa Jalla utilise ça pour argumenter parce que c'est un kafir. Tu ne vas pas lui ramener le verset. Le prophète va se parler au kuffar. Donc il lui donne quelque chose de. C'est utilisé par la raison. Donc Allah Azza wa Jalla ressuscitera. Et il fera ressusciter à partir du coccyx. D'accord. À partir du coccyx, on revient. Maintenant, tout le monde va revenir. Tout le monde. Bien sûr, avant cela, Israfil, l'ange, ça s'appelle en français, ça s'appelle Israfil. Donc, il soufflera dans la trompe. Il soufflera dans la trompe. La trompe à vie, elle a des trous. On a parlé de ça. On a parlé, elle a au nombre des âmes. Donc, il y aura entre le premier souffle et le deuxième souffle 40 ans. On a parlé de ça. Hein, on a parlé de ça. Donc, le premier souffle, ce sera le souffle de l'anéantissement. Hein. Donc, tout le monde mourra. Les prophètes s'évanouiront. Seul Sidna Moussa ne va pas s'évanouir quand il entendra ce souffle-là. Parce qu'il s'est évanoui dans la vie d'ici-bas. Quand il a demandé à voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, je veux te voir. Est-ce que le fait que Sidna Moussa a demandé de voir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose d'interdit ou non? Non, c'est pas interdit. Les prophètes, ce sont les plus connaisseurs de ce qui est autorisé, de ce qui est interdit dans la croyance. Ça, on ne peut pas dire à un prophète, ah, il ne connaît pas. Si... Non, il sait que c'est autorisé. Il l'a demandé à voir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal l'a récompensé par autre chose, par sa parole. Allah Azza wa Jal lui a parlé à Sidna Moussa. Mais n'imaginez pas que la parole d'Allah Azza wa Jal, elle est comme notre parole. D'accord ? Elle est éternelle. Il l'a fait entendre, comme on a dit, si vous vous rappelez, quand on a parlé de l'attribut de la parole, il lui a fait entendre sa parole avec tout son corps. Ce n'est pas les oreilles, c'est un Moussa qui a entendu. Il n'y a que lui, son entourage, personne n'a entendu. Il a fait dévoiler et entendre sa parole éternelle avec tout son corps. Allah Azzawajal pourra transformer tes yeux en un organe qui écoute et tes oreilles en un organe qui voit. C'est lui qui détermine ce que c'est. Donc chaque atome de Sidi Moussa a entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas une voix, ce n'est pas des lettres, c'est une parole éternelle. Non, il a fait comprendre, entendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, tu ne me verras pas. Regarde cette montagne, je vais lui montrer, lui dévoiler. On appelle ça en français Tajalli, la théophanie. Je n'ai entendu pas ce mot. Tajalli. Bon. Moi, j'ai peur des traductions, franchement. On me dit comment ça se traduit, mais j'ai peur. Ça renvoie un peu au christianisme, etc. Mais bon, pour un peu. Non.
Manifestation divine.
Manifestation, mais je suis à manifestation divine. Ça fait peur.
C'est la théophanie, c'est la traduction
de théophanie. Oui, tout à fait. Non. Et ben, on ne va pas trop tarder parce que l'écart, c'est juste 5 minutes parce qu'on a un cours après. Les gens qui vont venir ici. Donc, il y aura. Sinamous, Allah Azzawajal lui a dit, je vais montrer des signes à cette montagne. Hein? Si tu verras cette montagne, comment elle va devenir, tu ne supporteras pas. La montagne est devenue comme de la poussière. Sinamoussa s'est évanoui. Donc, il ne s'évanouira pas, le jugement dernier, puisqu'il s'est évanoui dans cette vie. Les autres prophètes vont s'évanouir dans le premier sur. Me faut, Inch'Allah. Qui est-ce qui a vu Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire qu'il a vu Allah azza wa jal, qu'il l'a, va dire, il l'a vu dans un endroit, ou bien il l'a spécifié dans un espace-temps. D'accord? Il l'a vu sans le spécifier dans un endroit où, etc. Allah Azza wa Jal, il peut tout faire. Et les musulmans verront Allah subhanahu wa ta'ala sans endroit, etc. le jugement dernier, c'est-à-dire au paradis.
Il ne s'est pas évanoui.
Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas évanoui, puisqu'il a vu Allah Azza wa Jal, il ne s'est pas évanoui. Donc il avait, c'est une chose spécifiée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est un moussa. Donc, si le prophète l'a vu, donc c'était possible de voir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Sinamoussa l'a demandé.
Excusez-moi. Oui. Vous dites que le premier souffle, c'est l'anéantissement et on va s'évanouir.
Hein? Tous les vivants qui existent à cette.
C'est-à-dire qu'on sera déjà tous ressuscités. Ah non, tous ceux qui existent.
Voilà, entre le premier souffle et le deuxième souffle, il y aura 40 ans. Le deuxième souffle, c'est pour ressusciter tout le monde.
D'accord.
Le premier souffle, ceux qui sont restés en vie.
L'anéantissement, c'est ceux qui sont vivants.
Ils sont vivants. Et en ce moment-là, il n'y aura plus de croyants. C'est-à-dire à la fin des mondes, la fin du monde, il ne reste plus. La taqumu sa'ata la yaqa 'ala al-ardi man yaqulu Allah Allah. Et le jugement, c'est-à-dire, il ne sera pas le jour de fin du monde jusqu'à ce qu'il ne restera plus sur terre quelqu'un qui dit Allah Allah. Et ça, c'est un argument des soufis, c'est-à-dire qu'on a le droit de dire le dhikr Allah Allah. Donc. Ceux qui disent non, il ne faut pas dire Allah Allah, ben, le hadith il le dit. Donc il n'y aura plus de musulmans, il n'y aura plus de croyants. Et la Kaaba sera détruite. Hadith rapporté par l'imam Ahmed. D'accord. C'est-à-dire le moment où il n'y aura plus de croyants. D'accord. Ce moment-là, la Kaaba sera détruite par un personnage, etc. On donne ces détails dans ce hadith-là. Alors, non. Donc le jugement dernier, tout le monde sera rassemblé, tout le monde sera ressuscité après le deuxième souffle. Le deuxième souffle, c'est pour ressusciter tout le monde. Je passerai, Inch'Allah, dans les cours suivants pour parler de ce qui va se passer ce jour-là. On a dit que c'est une journée terrible. Allah parle dans le Coran Karim, « Oma yukshafu an saqin, fa yud'auna ila sujoudi, fa la yastati'un » C'est-à-dire le jour où on les appellera de se prosterner, et ils ne pourront pas, parce qu'ils ne sont pas prosternés, ceux qui n'ont pas. Ne sont pas prosternés dans cette vie d'ici-bas, ils ne pourront pas se prosterner le jugement dernier, sauf ceux qui ont pu, qui se sont prosternés. D'accord. Donc ce jour-là, c'est une journée terrible, terrible. Ça sera une journée qui passera en quelques secondes pour des gens, en quelques minutes, pour des gens, en quelques heures, pour d'autres, quelques mois, pour d'autres, quelques années, pour d'autres, des milliers d'années. C'est une journée qui va durer très longtemps. Pour... Tout dépend de l'état du jugement de la personne. D'accord. Il y aura des gens qui vont passer rapidement, ni jugement, ni excès. Hop, on va détailler tout cela, Inch'Allah, dans le cours qui va venir. Wa sallallahu wa sallam wa baraka sallam wa 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 sallam wa
sallam wa sallam wa